Vous écoutez une émission de choc.ca.
Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified.
Bonsoir, chères créatures de la nuit, bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et oubliés dans ma cuisine. Je ne suis pas seul dans cette aventure. Je me présente, Simon Predge, votre animateur. Et dans cette belle cuisine, nous avons au poêlon le chef cuisinier Olivier Bigonnet.
Bonsoir.
Nous avons, pour sucrer nos papilles, le chef pâtissier Éric Arsenault est avec nous.
Bonsoir.
Et hein, on a réalisé que pour avoir du succès, ça prenait une cuisine propre. On a donc engagé à la plonge Laurence Côté-Collins.
Bonsoir.
Oh. Elle lave si bien.
Oh, comment allez-vous, messieurs, dames?
Hey, ça bien. Va vraiment bien.
Je suis tout énervé.
Moi aussi, je suis excité.
Oui. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Hein? Parce que c'est pas tout le monde qui suit nécessairement sur Facebook. C'est pas tout le monde qui est attentif, hein, à commencer par moi. Et il y a quelque chose qui est différent aujourd'hui. On a commencé quelque chose de tout nouveau, c'est-à-dire qu'on enregistre depuis ma cuisine. Donc, on s'est équipé, tout ça grâce au donateur Patreon de Ars Moriendi. Donc, merci à tous les Patreons Ars Moriendi. C'est grâce à votre argent qu'on a eu, on a eu la chance de se procurer tout ce bel équipement-là pour s'améliorer. Bien sûr, ça ne servira pas qu'aux oubliettes. Ça va servir aussi à Ars Moriendi. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la peine de nous équiper comme il faut. Ça valait la peine. On s'est équipé en tout en stock Rode. Il se lance vraiment dans le podcast de plus en plus. Une nouvelle console podcast, la Rodecaster, qui est hallucinante. On s'est procuré des podmics qui sont très abordables et qui rivalisent les fameux SM7B des grands studios. Bref, on capote.
On capote.
Mais il reste que c'est une période de test, hein, parce que là, hein, c'est, on est dans ma cuisine, il y a une petite réverbération en background, je pense que ça vient avec, je pense que c'est pas grave. En même temps, peut-être que la prochaine fois, on va enregistrer dans le salon, dans la salle de bain, des fois, on va aller chez Eric, des fois, on va aller chez Olivier. Si on a plusieurs invités, peut-être qu'on va aller au studio. Mm-hmm. J'espère qu'un jour, les boys auraient la chance de voir le magnifique appartement de Laurence Côté-Collins qui est avec nous, parce que c'est beau, c'est grand, on serait bien chez eux pour enregistrer le show. Fait que,
je prends des notes.
Fait qu'en gros, on essaye des affaires. On avait le goût de pouvoir faire le show en mou et c'est exactement ce qu'on fait.
Et on est en mou.
On est en mou, on est en petit jogging, tranquille.
Et on a même mangé des olives juste avant, c'est bien pour dire.
Oui. Ben oui, on s'est fait un snack.
On a fait un bon snack.
Ouais, des charcuteries, des olives, des fromages. En tout cas, on avait trois sortes de pain. C'est ridicule. On s'est
gâtés. C'est ridicule.
Mais c'est ça qu'on veut aussi. Hein? Vous avez remarqué qu'on manquait d'assiduité peut-être dernièrement. On avait de la misère à être stable. Mais là, c'est la solution au problème. On va pré-enregistrer nos épisodes. Fait qu'on n'aura plus de retard, on n'aura plus de délai. Je sais pas que ça va pas arriver un jour. Mais le but, c'est que ça n'arrive plus. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va sortir au final. Est-ce qu'on se lance dans ce show-là, messieurs, dames? Est-ce qu'on est prêts?
Let's go!
Ben, je suis prêt.
All right. Moi, je commencerai avec des petites nouvelles. Qu'est-ce qui se passe dans le monde merveilleux de l'horreur,
écoute,
Éric?
Je vais faire des petites vites. Je pourrais appeler ça les petites vites.
Hein, les petites vites?
J'ai encore un flash d'un coup.
Ça?
On a annoncé cette semaine le retour et Olivier a eu la même réaction que moi. Une deuxième saison pour History of Horror de notre ami Eli Roth.
Non, pas le bouh!
Non.
C'est tellement de la merde.
Donc, pour ceux
c'est
qui...
C'est ça.
Ça mérite ça.
Oh, on est rendu avec un soundboard, les amis. Il y a plein de pitons pour faire des bruits.
Je sais, je suis pas habitué. Bref, ça jouait sur AMC. En fait, c'est une commande de cette chaîne-là. Donc, il traitait la dernière saison, c'était 7 sujets, si je ne me trompe pas. Donc, là, ils vont avoir 5 thèmes. Les sorcières magiques, les monstres difformes, jeunes tristement méchants, maison de l'enfer et body horror. Ce que moi, je reprochais à cette série-là, c'est que c'était vraiment surface. On est dans l'anecdote. Les fans vont pas apprendre grand-chose. Peut-être que ça va initier certaines personnes qui connaissent pas l'horreur, mais sinon, c'était franchement plate.
Bon.
Bref, à surveiller, je vous en parlerai.
Bon, OK, bon. Mais tu sais, Eli Roth, là, on pense qu'on a compris la majeure partie d'entre nous que c'était pas un très grand réalisateur.
Pas vraiment.
Peu importe ce qu'il réalise. Regarde, ça peut être un petit plaisir coupable, mais je pense que ce sera jamais le top, là.
Point. Non, c'est ça. Il est juste cute à regarder. C'est pas mal.
Pas mal juste ça, pour vrai.
Quand c'est ça ta force. Bref, bon. Je vais enchaîner avec une belle annonce d'un remake de Invisible Man. Qui va sortir le 28 février prochain. C'est une relecture du classique de James Whale, sorti en 1933. Sauf que là, j'ai regardé la bande-annonce avec Elizabeth Moss, que j'aime bien dans Les Servantes écarlates.
Moi, dans tout ce qu'elle fait, je trouve que c'est une méchante bonne actrice.
Vraiment. Et là, on dirait que c'est Les Nuits avec mon ennemi invisible.
C'est vrai. C'est vrai.
Elle est victime de violence conjugale et son ex-chum, en tout cas, il meurt, mais est-il vraiment mort? Ou elle imagine tout ça?
Bon, on n'a jamais entendu ça.
On n'a jamais entendu ça.
Ce qui est intéressant de revenir sur des concepts, des idées qui ont déjà été faites, c'est comment ils vont réussir à les réinventer. Puis des fois, ça ne marche pas. Mais c'est ça aussi qui est à découvrir.
Moi, je trouve qu'on en voit beaucoup dans la bande-annonce, mais bon.
Un
film d'une heure et demie, il y en manque
c'est
beaucoup.
Ça.
Ouais, mais c'est ça. Ça aussi, on ne se le dira jamais assez. Je pense qu'on a compris que les bandes-annonces, ils nous gâchent toujours tout le film. Je pense qu'on peut arrêter de regarder les bandes-annonces. Oui. On est rendu là.
Si vous êtes curieux, puis c'est en février 2020, là, vous allez avoir le temps de l'oublier. Là.
Même avec Laurence, quand je montre des bandes-annonces, tu sais, une bande-annonce, c'est quoi, 3 minutes et demie. Au bout d'une minute, ça l'intéresse. Ça dit, OK, arrête là maintenant, le film m'intéresse, je ne veux pas en voir plus.
Voilà. Ouais. Petite dernière nouvelle pour les fans de jeux vidéo. Ce mois-ci, sur la PlayStation Network, pour ceux qui sont membres de PlayStation Plus, on vous donne gratuitement l'excellent et l'épeurant jeu Outlast 2.
Wow! Aucune excuse maintenant.
Vraiment aucune excuse. Ouais. J'ai chié dans mes culottes plusieurs fois.
Ouais.
J'ai vraiment
là,
eu la
solide.
Chienne. Ouais. Je pouvais pas jouer très longtemps parce que santé mentale...
Moi, c'est cette madame-là, là, la madame du jeu. Là. Oh non.
C'est un sujet assez hard. Là. En tout cas, c'est une secte, il y a des agressions sexuelles. C'est un peu intense.
Ouais, bref, vraiment. Mais c'est très bon.
Bref, c'est mes trois petites vites. Cool. Intéressant.
Mais toi aussi, Laurent, je pense que tu avais une nouvelle pour nous autres. Tu voulais parler des RIDM?
Ben oui, les RIDM. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est les Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Et c'est un festival qui se concentre sur le documentaire et qui existe depuis 1998. Donc, ça fait quand même un petit moment déjà. Et ils proposent une programmation hyper variée, complète, d'environ 150 documentaires. Court, moyen et long métrage. Donc, c'est du 14 au 24 novembre. Donc, ça commence vraiment très, très, très bientôt. Et moi, j'ai un film que j'ai eu la chance de voir en première. Vraiment une première privée là, avec le personnage principal, la réalisatrice et tout ça. Donc, c'est King La Voix, un film de Joanie Lafrenière. Donc, c'est un court documentaire que toi aussi, tu as vu,
ouais.
Simon.
Mais combien de temps déjà?
26 minutes.
Ah oui, OK.
Oui, c'est ça. Donc, je vous lis le synopsis, là, carrément, on se gâte. Donc, c'est la vedette de Pointe-du-Lac de Trois-Rivières. Donc, on parle ici de King Lajoie. Il travaille son teint à grands coups de séances de bronzage. Il se garde en forme au gym et protège sa coiffure impeccable. Il se déplace parfois en limousine, mais reste toujours disponible pour ses fans quand il ne travaille pas de jour comme vendeur de produits de coiffure. Et oui! Donc, depuis des décennies, Elvis Lajoie perpétue la mémoire du King. Dévasté par la mort de son idole en 1977, ce personnificateur attachant prend une retraite anticipée avant de refaire son propre comeback au début des années 80. Désormais, plus vieux que le King lui-même à sa mort, Elvis Lajoie se dévoile à Joanie Lafrenière dans ce portrait aussi kitsch et dénudé de condescendance que son sujet. Le King est mort, vive le King Lajoie. Donc, c'est un court documentaire hyper kitsch, vraiment drôle, super attachant là, sur ben, Elvis. Elvis en personne.
Ouais, ouais, Elvis en personne. L'imitateur d'Elvis en personne, un des 150 000. Mais il est tellement drôle. Quel beau personnage.
Non, mais c'est un gars de Trois-Rivières. Ouais. Il a son fanbase. Il y a du monde qui l'aime. Moi, ce monsieur-là, je l'ai rencontré en vrai. Il a donné même un spectacle privé au Coconut Bar de Trois-Rivières.
Oh,
wow, j'étais là.
Oh, wow.
Ouais, donc, c'est vraiment un film super bon à voir. Et ben, allez voir la programmation du festival. Il y a vraiment plein de bons films. Puis, qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur ce film-là?
Moi, j'ai bien aimé ça. J'en aurais pris plus. Même, je trouve que 26 minutes, ça passe très vite. Le personnage, il est drôle, il est attachant. Mais c'est sûr, là, faut être fan de kitsch. Là, hein? Là, vous êtes dans ma cuisine. Vous pouvez constater que je suis fan de kitsch. On dirait qu'on est dans une cuisine de grand-mère. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. J'aime ça, les vieilles affaires. Surtout quand c'est plissé. Puis c'est exactement ce qu'on a avec King Lajoie, un vieux mononcle tripeux d'Elvis qui en a fait non seulement une passion, mais une carrière. Puis c'est tout ce qu'il y a autour aussi. Hein. C'est le décor, c'est l'ambiance, c'est les gens qu'il rencontre.
Toute
tout
sa famille qui est présente autour de lui. Puis je termine avec ça. Là. Les parents, ça c'est une anecdote qui n'est pas dans le film, je l'ai su à la première. Les parents d'Elvis Lajoie qui sont toujours ensemble et vivants, sont mariés depuis 71 ans.
Oh, wow!
C'est le plus vieux couple que j'ai vu de toute ma vie. Donc, c'est ce couple-là, c'est les parents d'Elvis Lajoie dans le documentaire. Allez voir ça, ça vaut la peine. C'est drôle et c'est vraiment bon. Et Joanie a sa signature visuelle bien à elle.
Vraiment.
C'est une photographe.
C'est un coup de cœur, son visuel à Joanie. Là.
Moi, ses univers sont tout le temps très pop, très colorés, hyper bien cadrés.
C'est elle qui avait réalisé Snowbird, d'ailleurs. J'en avais glissé un mot aux oubliettes.
Oui, en 2017.
2017.
Oui, excellent documentaire.
Ouais, super documentaire, c'est Snowbird. Ben, on retrouve cette couleur-là. S'il y en a qui l'ont vu, on retrouve cette couleur-là encore dans King Lajoie. C'est comme la célébration du kitsch. Présenté à la légère, mais avec beaucoup de cœur.
Fait que finalement, ben, si vous avez le goût d'aller voir ce film-là ou d'autres films, allez au RIDM. Puis pour voir le film King Lajoie, c'est dimanche le 17 décembre à 17h45 au Cinéma du Parc. Donc, allez acheter vos billets, garochez-vous sur Internet.
Ouais, vraiment, ça vaut la peine. Sur ça, ben moi, on pourrait se lancer d'une première chronique. Il y a quelqu'un ici avec nous autres qu'on vous a pas encore présenté, que ça fait vraiment longtemps qu'on attend. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Oh, on l'accueille chaleureusement, tout le monde ensemble, le Père Noël! Non, c'est pas vrai, c'est Oli. Oli, on l'a pas entendu depuis un petit bout de temps. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que t'as pour nous autres, parce que ça fait comme deux mois que tu nous parles de ton anor.
Oui, hein.
Bon, présente-nous ça.
Ça fait deux mois. Écoutez, Smooch sonne cacane un peu.
C'est tes écouteurs.
C'est mes écouteurs.
C'est le seul qui a comme des écouteurs plus. Ouais, il nous manque encore deux paires d'écouteurs. On a sorti des vieilles affaires.
Sonne bien.
Je vous parle d'un anor que ça fait tellement longtemps que j'ai envie de vous parler, que j'ai découvert cet été, que j'ai vu sur des tablettes de clubs vidéo quand j'étais petit. Que j'ai jamais osé louer et oh my god, la surprise que je me suis faite. Donc, je vous parle de Night Killer, 1980. Titre original de Non aprite que la porta tres.
Attends, okay. Bon. Attends, reprends ça là.
Non aprite que la porta tres.
Maître. J'espère qu'un jour, j'arriverai à comprendre ce que vous dites.
Et voilà. Content, il l'a pris.
Ouais, c'est fait. Là, je voulais l'utiliser, qu'est-ce que tu veux.
Et aussi, Texas Chainsaw Massacre 3.
Ah, okay. Ah oui, le meilleur.
Non. Aucun rapport.
Ben, c'est ça.
C'est un méchant gap.
Et si on fait la traduction de « Non aprite que la porta tres », ça veut dire « Do not open that door 3 ». Donc,
excuse-moi.
C'est un film écrit et réalisé par nul autre que Claudio Fragasso, ici sous le pseudonyme Clyde Anderson, donc qui a co-réalisé, co-scénarisé avec Mattei très souvent, donc Hell of the Living Dead, 80, Rats, Night of Terror, qu'un jour on va se taper ici, il faut qu'on en parle, Zombie 3, le sequel After Death de 89 avec Jeff Stryker, et bien entendu, un des nanars les plus appréciés au monde, Troll 2.
Troll 2.
Ça vous met un petit
On l'a regardé il n'y a pas longtemps, tu te souviens? Troll 2, là, avec l'espèce de glu verte, là, puis les espèces de petits trolls dégueux, là.
Ouais.
Bon. Donc, c'est lui.
On parle j'ai même vu ça, moi.
Hein, hey, t'as vu ça, toi? Ah,
oui, j'ai vu ça à Fantasia.
Tu sais, j'en ai déjà parlé dans le passé lors d'une chronique pour Le Nanar, le réalisateur scénariste qui vivait dans l'ombre de Bruno Mattei. OK, c'est une réalité. Donc, et Mattei, ici, qui est co-réalisateur de dernière minute pour filmer des scènes additionnelles gore. Vous le connaissez rendu le matin, on en a parlé. Donc, bien sûr, discrédité, sa conjointe Rosella Drudy, qui vivait dans l'ombre, elle, de Fragasso. Tout le temps, quelqu'un qui vit dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Donc, en tant que co-scénariste. Donc, c'était monnaie courante pour les films européens des années 70-80 en Italie. C'est connu, on le sait. Donc, le cast, très rapidement. Okay, on
a, ça ne faut pas en fait, s'y attarder.
On a Peter Hooten dans le rôle d'Axel, qui a joué dans le classique Orca en 77.
Ah oui, oui, oui.
Doctor Strange 78, The Inglourious Basterds en 78. On a Tara Bachman, okay, qui suis nouvellement fan d'elle après ce film-là, dans le rôle de Melanie Beck, qui a joué dans The Cannonball Run en 81 okay, avec ouais. Adrian Barbeau, puis... Farrah Fawcett et ses cheveux. Silent Night, Deadly Night en 84, Extro Part 2.
Oh, le 2, ben oui.
Ouais. On a Richard Foster dans le rôle de Sherman Floyd qui n'a rien fait d'autre. On a Clarissa dans... Tova Sardo dans le rôle de Clarissa qui n'a rien fait d'autre. On a Lee Lively dans le rôle du Dr. Willow qui a fait The Princess of Tides de Barbra Streisand en 91. Blind Vision.
Chose qu'on sait ça maintenant.
Ben, et... moi, j'ai vu ça au cinéma. Hein. Ah, oh, je sais, je suis quétaine de même. Qu'est-ce que tu veux?
Quelqu'un d'autre, Gabby Ford, dans le rôle de la chorégraphe, qui n'a rien fait d'autre, mais elle, ça me fait plaisir de la nommer. Okay? Okay. On va en rediscuter un petit peu plus tard d'elle. C'est un numéro. synopsis, c'est on est à Virginia Beach après avoir survécu à une terrible agression sexuelle par un tueur masqué dans sa demeure. La ravissante Melanie Beck, à peine à revenir de son choc post-traumatique. Donc, hospitalisée, elle ne se souvient de rien du tout de l'incident, d'une amnésie totale. Sa jeune fille, Clarissa, partira vivre temporairement chez le couple d'amis de Melanie pendant que celle-ci se refait une santé. Donc, le tueur, lui, a déjà pris la poudre d'escampette. Je voulais le dire. Donc, elle est l'unique survivante de ce tueur ayant déjà commis 3 meurtres, toujours vêtue d'un masque à la Freddy et armée d'un gant en latex muni de gigantesques griffes en caoutchouc. Okay? Oui, c'est...
Ouais, c'est du rubber,
c'est
là.
C'est caoutchouc. Donc, mais Melanie est la seule à avoir vu le visage du psychopathe. Son médecin croit que si Melanie arrive à reconnaître le visage de son agresseur, toute sa mémoire lui reviendra. Donc, en espérant retrouver une vie normale, c'est pas long que les problèmes recommencent pour notre pauvre Melanie, à peine sortie de l'hôpital. Donc, après une tentative de suicide, elle va se faire séquestrer puis droguer dans une chambre de motel miteux par une espèce d'obsédé sexuel misogyne qui prétend vouloir être son ami, tandis que le tueur rôde toujours en soif de nouvelles belles jeunes femmes à trucider. Donc, la police soupçonne l'ex-conjoint de Melanie comme premier suspect, qui est toujours introuvable, donc un ancien policier alcoolique. Donc, Sherman, l'ami de la famille, chez qui sa jeune fille séjourne temporairement, décide de mener sa propre enquête afin de retrouver ce maniaque et par le fait même peut-être sauver Melanie. Bref,
c'est un drame romantique.
Et papa. T'es pas loin de ça, c'est vrai. Donc, c'est un petit Italo-sleaze tourné en 1989 en Virginie à Norfolk, donc puis sorti en Italie en 90. Ce que voulait Fragasso au départ était comme un film psycho-analytique à la Bergman, OK? Un thriller psychosexuel. Clairement, il est à côté de la traque. OK? Même si on pourrait blâmer Mattei qui est venu brouiller les cartes en tournant l'ouverture du film, car les producteurs n'aimaient pas le dénouement du film. Donc, ils voulaient un film gore à la Zombie 3 ou Aftermath parce que ça avait bien fonctionné pour eux là, dans le passé. Puis, Fragasso, lui, s'était lassé du genre, voulait tourner quelque chose d'autre d'un petit peu plus profond.
Okay.
Donc, Mattei, qui était en charge de faire le montage du film, comme la plupart de tous les films de Fragasso faisaient le montage, lorsque Fragasso a appris que les producteurs ont été dans son dos pour tourner une scène d'ouverture différente et rajouter des scènes gore en gros plan, il était furieux. Là. Donc, c'est d'ailleurs clair. Ce qui a mis un froid entre les deux amis pendant quelques années. Donc, Mattei avait fait comprendre à la femme de Fragasso, qui est co-scénariste ici, que s'il ne tournait pas les scènes demandées par les producteurs, ceux-ci pourraient le poursuivre. Bref, le malentendu est du passé maintenant. Ils se sont réconciliés, même si Mattei, bon, n'est plus des nôtres aujourd'hui, il est décédé. Donc, ce qu'on a ici, OK, c'est un délicieux nanar fumant. Donc,
ben, tu sais, quand tout le monde vient jouer dans ton film, ça part déjà pas très bien. Là.
Mais c'est délicieux, OK? Donc, on va parler de la scène d'ouverture de Mattei, OK? Misère. Donc, c'est une chorégraphe, hein? Gabi, que je parlais tout à l'heure, hein? Gabi, la chorégraphe, entraîne ses élèves dans un théâtre sur une des pires tunes de tous les temps. Et que dire de la danse qui ressemble à un genre de moonwalk de Michael Jackson sur du papier sablé, avec des mouvements de bras d'oiseau qui se débat d'un prédateur, tu sais. C'est vraiment l'image, là. Faites-vous dans la tête, c'est vraiment ça. Donc, puis je m'excuse, moi, je peux pas prendre au sérieux un danseur avec un chandail de Mickey Mouse. Ça marche pas. Donc, il y a une élève qui arrive en retard.
Ça, c'est parce que tu m'as jamais vu, là.
Écoute, non. ça marche pas.
Non, je peux comprendre.
Oui, donc là, il y a une élève qui arrive en retard. La chorégraphe lui donne la marne. Elle va ensuite se changer pour donner aux téléspectateurs un peu de TNA. Elle va se faire transpercer le ventre de bord en bord par le tueur à l'aide de son gant griffé en caoutchouc. OK? OK? De bord en bord, là.
Comme ça.
Okay?
Ah, déjà. Vas-y.
Déjà.
On s'était attachés.
Ben oui, écoute, elle est arrivée en retard, puis c'était pas de sa faute, pauvre petite. Donc, tu sais, son arme de prédilection ici fait aucun sens, OK? Des griffes en latex qui shake moindrement qu'ils bougent, là. Tu sais, pensez aux griffes des mémés cannibales, là.
Ah oui, t'sais, oui, bon, oui. Okay? Ouais, ouais.
Donc, on n'y croit pas, ça fait aucun sens, mais ça donne le ton du film qu'on s'apprête à regarder, on pense, tu sais. Donc, la répétition continue, la chorégraphe pète une coche parce que ses danseurs sont vraiment de la merde. Est-ce qu'on peut les blâmer? Donc, elle se met à agir comme si elle souffrait du syndrome de Parkinson soudainement, vu qu'elle est énervée, là. Dans son acting, il faut qu'elle nous le montre de cette façon-là. Elle essaie de s'allumer une cigarette sous la pression. Là, elle décide de prendre une pause et aller checker si l'autre fille est en retard, puis c'est incorrect. La fille en retard, c'est incorrect. Cette scène-là, c'est là que je pensais à... je pensais à Laurence. Je suis comme, oh my God. C'est de l'acting que tu vas aimer, genre. Du brain un peu, là, tu sais.
On aime ça.
C'est sûr et certain. Donc, elle se fait surprendre par le tueur. Il lui tranche la gorge avec ses griffes en latex pendant qu'elle essaie de se défendre avec sa canne de danseuse. c'est super drôle. Sa cicatrice... oui, les moves avec sa canne. Sa cicatrice disparaît tout de suite après. Donc, suivi d'un long plan où elle se garoche ses murs en tenant sa gorge. Du moins, de ne pas oublier de tenir sa gorge parce que la fausse cicatrice en plastine n'est plus là. elle va finalement... Donc, elle va se faire pitcher du deuxième balcon pour atterrir comme une catin dans les gradins.
Oui, une catin!
Oh!
Devant les regards stupéfaits, pour ne pas dire théâtral, des apprentis danseurs, leur réaction vaut 1000 piastres. C'est vraiment comme... comme danse expérimentale, là, comme...
Oh my God!
C'est de toute beauté. Donc, ici, on peut penser qu'on a une bonne idée du ton du métrage et dans quoi on s'embarque, OK? Hell no, OK? Vous n'avez aucune idée. Donc, on va parler un petit peu des acteurs principaux. Donc, Tara Buchman et son brushing dans le rôle de Melanie Beck est tout à fait exécrablement parfaite, OK? Je l'adore. Elle ne surjoue pas à peu près, là. Donc, c'est une genre de sexy housewife en procédure de divorce. On ne sait pas trop ce qu'elle fait comme métier, mais elle nous laisse croire qu'elle écrit. Donc, quoi, on le sait pas. On le sait.
Peut-être juste des post-it, hein? Quand c'est pas précisé, là.
On le sait pas, mais la mise en scène dans un bureau de sa maison rempli de piles d'olives placées, mais avec des toutous dessus, partout, pour rien.
Ah.
Une scène délicieuse juste avant l'agression, OK? Où elle se promène dans la maison en petit déshabillé, t'sais, sexy, avec une grosse tasse à café vide dans une main, puis un sandwich au pain blanc aplati avec du gros fromage Kraft. OK? Ça fit pas. Ça marche pas. Ça marche pas, de toute beauté. Donc, ou bien il y a une autre scène.
J'allume mon nouveau soundboard. Mais si je, à un moment donné, je vais me calmer.
Il y a une autre scène, OK, où Melanie se regarde dans le miroir et décide de sortir les boules.
Ça m'aurait pris un son de spring.
Et de se dire, tout en les caressant avec un air triste et à la fois suffisant. Puis là, elle est comme, « Oh, Melanie, this is your life now. » Elle se regarde, puis elle se caresse.
Oh, « A divorce on the way. »
A child to raise alone. Puis là, tout d'un coup, tu sais, elle se dit, bon, ma vie, c'était de la merde, mais j'ai des beaux seins. C'est comme ça. Vraiment.
Bon, je vais avoir une vie de merde, mais au moins j'ai des gros seins.
Ça faut se consoler avec ce qu'on a. Hein.
Écoute, mais donc, son hymne est interrompu par un coup de téléphone du tueur dont elle se précipite sur celui-ci. Les boules à l'air, bien sûr, ça fait pas de sens, ça marche pas. Donc, ça, c'est. On te la présente comme ça, donc là tu le sais, elle, d'avance, OK, je deal avec toi pendant une heure et demie, là. OK, c'est tout un numéro. Donc, Peter Hooton, dans le rôle d'Axel, le désaxé sexuel qui a un gros problème au niveau de ses glandes sébacées, OK? J'ai jamais vu un excès de sébum aussi intense de toute ma vie.
Personne pour l'essuyer sur le plateau.
Vraiment, ça n'a pas d'allure. Donc, tout comme notre housewife, il est parfaitement délicieux dans sa prestation et surjoue chacune de ses scènes.
Je veux voir ce film-là.
Écoute, tu vas capoter, là. Donc, tu sais, que ce soit de sauver Mélanie du suicide en avalant des pilules sur le bord de la beach ou de la séquestrer ensuite et ça donnait des jeux pervers avec notre amnésique, ou quand il se fait braquer par Mélanie dans une toilette publique et se ramasse en speedo bleu royal après s'être fait forcer à flusher son linge dans les toilettes.
Surtout que du linge, ça s'en va pas dans une toilette.
Elle force à acheter son linge dans les toilettes puis le flusher, puis tu penses, oh oui, ton linge est passé.
c'est logique.
Ça fait aucun sens. Donc, d'ailleurs, semble-t-il que les deux acteurs se détestait, OK? Donc, Tara avait un gros problème avec le fait que Peter était homosexuel et que la chimie à l'écran manquerait de crédibilité entre eux, OK? Ce n'est pas le cas, là. Ils ont bourré tous les deux, puis...
Oh, ouais.
Ça ne change rien, ma grande. Donc, Mel Davis dans le rôle du détective Clark, donc c'est un rôle typique des policiers black du cinéma des années 80 en trench coat beige, là, hyper agressif tout le temps, en train de dire motherfucker tout le temps, rien de nouveau. Donc il tape sur les nerfs, pas à peu près, et l'unique raison de sa présence, c'est qu'il faut bien avoir un policier qui enquête sur les meurtres, puis la disparition de Melanie. Donc ça est accompagné le docteur Willow. Le psychiatre de Mélanie, à chaque fois que les médias sont présents et que le dit docteur nous donne un profil psychologique sur notre amnésique kidnappée et séquestrée, il y a un gros crowd qui se ramasse autour d'eux autres. Le policier est là, lui est là à chaque fois, puis il explique en détail là, comme l'état psychologique là, de la fille qui a disparu. Puis ça fait aucun sens, aucune vie privée, ça fait aucun sens.
Donc, ouais, dans la réalité, ça n'arrive pas. Là.
Écoute, le reste du cast consiste de guédailles sans talent qui vont se faire trucider. Je vous garde la surprise. Et bien sûr, notre tueur avec une force surhumaine qui ne sera jamais expliquée. Donc, on nous laisse croire qu'il y a un côté artistique hein, parce qu'il y a un atelier d'art probablement là qui a créé son masque et son gant meurtrier clairement inspiré par Freddy Krueger. Mais même là, bref, on s'en fout, genre ben raide rendu là, là. Ton cerveau, il est dans la poubelle. Nightkiller est tout simplement un nanar par excellence. Okay? Un titre qui ne fait aucun sens parce que notre tueur ne tue pas seulement la nuit. C'est pas un tueur de nuit. Ça n'a pas rapport.
OK, ça part mal.
Donc, un long
déjà,
métrage.
C'est un peu ordinaire. Là.
C'est ça. Nightkiller. Tu sors la nuit puis tu tues.
Tu tues la nuit.
Non, lui, c'est de temps en temps. Puis
c'est la nuit.
Trois quarts du temps, c'est tout le
temps. Et c'est un tueur. Nightkiller.
En 10h et 5h le matin, là, c'est correct.
Je pense qu'une fois qu'il tue la nuit, puis il est dans un centre d'aquarium, puis il court après une fille, même pas dehors en plus. Genre. Ça fait, en tout cas. Nightkiller, C'est un long métrage médiocre, mais ô combien inoubliable et satisfaisant. On s'ennuie jamais, OK? Il y a toujours un dialogue, un jeu d'acteur, un effet spécial, une musique, un revirement de situation qui nous met le sourire au visage. Donc, oui, l'identité du tueur est extrêmement prévisible. Je veux dire, après 10 minutes, si vous ne savez pas c'est qui, c'est pas fort. OK? C'est assez clair. Mais il y a quand même un twist dans le film que j'ai vraiment pas vu venir et qui fait aucun sens, OK? J'ai littéralement crié « What? » C'est comme « What the fuck? » genre dans mon salon. C'est fucké pas à peu près, là. Donc, chose certaine, ce petit fromage est beaucoup plus succulent à visionner en groupe. Je vous garantis une soirée de rire, de rembobinage, de what the fuck. Un must pour les fans de nanar sympathique, fortement recommandé. Moi, je lui donne un 4 Babybel sur 5.
Nice, nice. Mais je pense que je peux parler pour tout le monde en disant que on a le goût de voir ce film-là.
Ben, vous devez de voir ce film-là.
Night Killer, ça a l'air d'être quelque chose en maudit. Merci Olivier pour cette chronique Night Killer. Quelle année déjà?
1990.
90 quand même, hein? OK. Merci Olivier. On s'en va en musique. On va aller écouter Hearse with a Curse des Weirdos avec Mr. Gasser. Et on revient tout de suite après aux oubliettes sur choc.ca.
Worth, it's not snowing, so take off your chains.
On my neighborhood lot, I found a hearse I could buy. But when I pulled out my loot, you should have heard that guy cry.
There ain't no nothing
worse than a hearse with a curse on it. Well, I tried out that caddy and it moved real fine.
It's even got a Transylvania license plate on it.
She was very, very cherry, so I made her all mine.
Nothing like a black tuck and roll hearse.
I took her to the beach that very day, but I was still being bugged by that guy would say.
There ain't nothing worse than a hearse with a crystal fire.
I surfed on
think.
A pair of purple baggies with nothing inside.
And three red
flags on green are the scaring out of his mind.
Il faut pas vous droguer. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Bien comme je vous le disais, se droguer, c'est mal.
Qu'est-ce que tu fais, Laurence?
1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8.
Assieds-toi donc, là. 1
et 2, 3 et 4. Ben, excuse-moi, là, je suis occupée.
Ah?
Ben, depuis que j'ai vu le film Cocaïne, j'ai commencé à prendre des cours de danse lascive latine.
Oh, c'est ça qui se passe.
Parle-moi tout, une merengue.
Oh, c'est lourd.
Ah, oh, je te dis, le film Cocaïne a changé ma vie.
Ben, OK, mais là, je vais avoir besoin de comprendre c'est quoi le lien entre merengue et cocaïne.
Ben, écoute, on va se le dire à la base, là. Le film de drogue, c'est la base. OK? On commence par la base. Donc.
Oui, parce que c'est ça, c'est supposé être chronique film de danse, là. Pas film de drogue, pas film de danse.
C'est ça. Mais là, ce qui arrive, c'est que. C'est ça. Je me suis tapé le film Cocaïne, puis là, ben, écoute, catastrophe. Film catastrophique. Oui. Film insupportable.
Insupportable, c'est le bon mot, je pense.
Et ça débute en force avec une toune qu'on est en train d'entendre.
Ben oui.
Et là...
Amanecer Gaijiro.
Et là, ben, j'ai la brillante idée, dès le début du film, de se dire... Ben, peut-être qu'on pourrait jouer à Shazam pendant qu'on regarde le film.
Ah boy, c'est moi qui... Elle m'a donné la job, en fait, on va se le dire.
C'est ça, c'est parce moi que sinon, il a été obligé de se taper le film avec moi. Fait que bref, donc, on s'est tapé le film Cocaïne et ben, la musique est inappropriée du début jusqu'à la fin, mais on aura le temps d'en jaser amplement. Donc, on va commencer par ben, conserver cette bonne musique en background. Hein, ah, parce que.
Ben, est-ce que je peux danser, moi, pendant que tu parles?
Ben, gâtez-vous, les ben, gars.
Super. Ouais, moi, je danse pendant ce temps-là.
Tout le monde, en partant d'ici, va s'inscrire à des cours de danse.
Oui, clairement.
Donc, ben, je vais commencer par vous parler de la belle pochette, hein, parce que ce qui m'attire toujours, moi, sur les films de drogue, c'est les pochettes. Hein, ah, parce qu'il y a toujours du monde ensanglanté qui crie malheureux, leur vie est déchue, terminée. C'est toujours des vidanges pas possibles.
Il y a toujours une grosse seringue coupée, découpée, là, poche avec des ciseaux collés dessus.
C'est toujours la fin du monde. Fait que, finalement, la musique, elle me gosse en tabarnak. Je te dis ça, je te dis rien. mais je dois dire que je me sentais comme ça, irritée tout au long du fait du film.
Ah, ben dans ce cas-là, on va le vivre comme tu l'as vécu.
Ben, c'est ça, parce que moi je continue à danser pareil. Même si c'est pas de musique, là, je continue.
Donc, ben écoute, je débute avec la lecture de la pochette. Donc, sur le top de la pochette, évidemment, il y a un gars qui crie, qui capote avec une seringue dans le cou. Et c'est écrit « Dans le bas quartier S de New York, il existe un monde barbare, sans pitié ni loi. » Donc, déjà, on a l'eau à la bouche, puis on se dit, mon Dieu, ça me semble un film violent, wow. Prenant, hein? N'ayons pas peur des mots. Et là, tout de suite, en dessous, on peut voir version française de Mixed Blood, hein? Blood.
Mixed Blood.
Et c'est ça, ça l'air. On salue mon anglais.
Attends, il est où le son, là?
Ah, ben là, ouais, pas juste moi, là.
Maître, j'espère qu'un jour, j'arriverai à comprendre ce que vous dites.
Et voilà.
Oh, c'est
voilà.
Ça, Blood. Donc, Mixed Blood. Alors, voilà. Donc, en version française, Cocaïne. Donc, Los Angeles Times, derrière la pochette, nous dit... Une combinaison perverse de violence brutale et d'humour noir percutant qui se marie parfaitement.
C'est sûr que la phrase après dans l'article, c'était « pire film de l'année », mais ça, ils l'ont pas mis.
En tout cas, ils n'ont pas vu le même film que moi.
New York Times?
Non, ouais. Non, le Los Angeles Times.
Oh, OK.
Ouais, on ne sait pas c'est qui ces gens-là, ouais, non, mais ils disent que c'est percutant, que tout est parfait.
Est-ce que tu as ri? Est-ce que l'humour noir...
Oh, Seigneur, j'ai pas ri, mais j'ai toujours ri à toutes les fois qu'on a chasamé une toune puis qu'on l'a trouvée, par exemple.
Bon, ben, on a ri, puis il n'y avait pas beaucoup de lumière. Fait qu'on peut dire que c'était on a ri noir, mais pas plus que ça. C'est le plus loin que je pourrais aller.
Je vais te demander de quitter.
Ah, OK.
Ça prend un petit sort de tambour.
Ça, là.
Voilà.
Ah, mon Dieu, hein, la toune, c'est agressant, mais...
C'est ça pendant 2 heures.
C'est ça. Non, 1h38. Donc, c'est ça. Même, hein? C'est un film de 1h38. On dirait que c'est 4h50. C'est interminable. À chaque instant, j'avais envie que le film se termine. Et, ben, on dit que c'est un drame d'action. Et c'est 1984, hein, l'année. Donc, ce film est né deux ans après moi. Et le réalisateur
ça,
est...
Oui, c'est réalisé ça par... Oui. C'est réalisé par Paul Morrissey. Oui. Ça vous dit quelque chose?
Ben oui,
ben oui, hein, c'est lui qui avait sorti, il avait réalisé Andy Warhol's Flesh of Frankenstein et Blood of Dracula. Tous les deux qui ont fini dans les vidéomasties.
Il était proche de Andy Warhol.
Oui, exactement, c'est ça. Warhol, oui. Exact. Puis il avait réalisé aussi Hounds of Baskerville.
Oui.
Il y a quand même une filmographie bizarre, oui. Un peu. Là. Très
mais Flesh for Frankenstein, c'est bon. Mais là, après ça, quand tu vois qu'il a fait ça,
non, c'est ça.
Qu'est-ce qui s'est passé, non?
OK, je sais pas, c'est quoi le lien entre les deux?
Non.
Donc là, je vais vous lire le résumé parce qu'on est toujours à l'étape de consulter la pochette avec l'excellente musique qui nous met dans le beat. Dans le beat latin.
Je rappelle que c'est un film très violent.
Oui,
plein de drogue.
On va y arriver. On va y arriver. C'est un film excessivement violent. Alors, dans le Bronx de New York, il existe un monde différent des autres centres de la drogue à cause de son important chiffre d'affaires. Ce film raconte l'histoire de Thiago, un jeune gangster de 19 ans qui a gravi les échelons du système, mais qui reste sous la réfule de Rita, sa mère. Un film dur qui nous montre sans aucune retenue ce qu'est un ghetto de l'illégalité contrôlé par le plus fort et le moins scrupuleux. Hein? Fait que, donc, et ce film noir se passe sur cette musique, hein? On s'en rappelle sans arrêt. Alors, ben écoute, on va démarrer le film. Je vous fais un résumé du film à la bonne franquette. Donc, on part la musique du générique d'ouverture, s'il vous plaît.
C'est pas la même chose. Hein?
Alors, on vous rappelle au passage qu'il y a quatre musiques, puis c'est les quatre mêmes qui reviennent toujours dans le film. Donc, c'est Shazam qui nous a permis de s'en rendre compte.
En fait, c'est plutôt cinq, mais il y en a une qu'on n'a pas trouvée. Ouais, il nous en manque une.
Alors, voilà. Donc, le film est démarré sur cette musique exactement. Donc, non, nous ne sommes pas dans le sud. Je vous rappelle qu'on est dans la misère de New York sale en plein jour. On commence en partant avec la mère Rita Lapunta, la chef de gang de drogue. Ouais, cette comédienne, c'est le sosie de Carole Châtel, là. Tu sais, là, celle qui jouait la mère de Michel Couillard dans Ouattara.
Avec donc, ses bras poilus.
C'est ça, fait que la même face, les mêmes cheveux, avec un peu, elle a comme un kit un peu.
Gitane.
De gitane flamenco, là. Fait ouais. qu'on dirait Carole Châtel en tabarnak qui se promène en plein jour avec des jeunes enfants qui sont déguisés en gangsters. Et là, le film commence sur cette musique endiablée là, de merengue avec, on va se dire, Carole Châtel. Puis là, bang, tout est chaud. Ça commence une fusillade en partant. Et c'est cette musique-là qui monte juste un peu plus fort. Et là, en plein jour...
Fusillade là-dessus.
Grosse fusillade. Et là, c'est la première fusillade du film. Personne meurt. Ouf, on a eu peur, heureusement. Mais ça tirait dans tous les sens. Il y a des gens partout. Puis là, t'entends, papa, avec la musique. Puis là, on a peur, là. Tu sais, ça fait 5 minutes que le film est commencé. On voudrait pas que tout le monde meure tout de suite, là. Qu'est-ce qui va se passer si tout le monde est mort?
Le meringue, c'est parfait.
Heureusement, personne n'est touché. Ouf, le film peut continuer. Donc, l'histoire prend rapidement son envol quand un pantin cheap tombe d'un building.
Ah oui! Fait qu'il n'y a pas juste le film qui a pris son envol.
Non, c'est ça. Donc là, il y a une espèce de pantin dégueu qui tombe d'un building. Puis là, les méchants, ils voient le pantin tomber. Puis là, Madame Lapunta, Rita, est là. Puis là, Rita est en tabarnak parce que le pantin, il est tombé du toit. Puis là, tout le monde, toute l'histoire du film commence à cause de tout ça. Mais le pantin, on sait pas vraiment c'est qui, on n'a pas eu le temps de s'attacher. Fait que là, le film est à peine commencé que la deuxième toune du générique de début repart tous les choses. Fait que là... La toune du générique repart.
Ah, la première.
Ah ouais, il suit.
Si, oui, rigueur.
Alors là, la toune du générique qui repart, puis là, le film continue. Et là, je vous rassure, il n'y a aucune tension jamais dans ce film, OK? Je répète, je vous rassure, aucune tension.
Mais ça, on aime ça. Ouais, mais faut se le dire, là. Tu sais, la tension, elle passe beaucoup par la musique. Fait que c'est sûr, que tu sacques pas de la musique de tension. Oublie ça, la musique de tension, c'est
ouais,
ça. Pis,
ouais, tout le temps. Des fois aussi, il y a du pipeau puis de la trompette. Mais
ouais,
ça,
parce
c'est
que,
plus des créations du compositeur.
Oui, parce que je me rappelle plus son nom, mais en plus des 4-5 tunes que déjà, qu'on en va entendre aujourd'hui, il y a des compositions originales d'un compositeur X.
Ma foi s'intonise le beat 36 Samba et c'est parti.
Ouais, c'est ça. Il est sur un clavier Casio. Tout passe par le Casio. Malheureusement, ces tunes-là sont pas trouvables nulle part. Il y a personne qui a gardé ça.
Bon, fait que là, je reviens au propos du film parce que c'est pas qu'on s'en crisse, mais un petit peu, là, hein? Quel bon film! Bon, j'en profite pour ajouter que l'histoire se déroule à Alphabetville.
Ah oui, donc, Alphabet City.
Ouais, puis là, ça doit être quelque part à New York, Alphabetville, là, parce que, tu sais, sa pochette, ils parlent pas en tout d'Alphabetville, là. Tu sais, ils disent le Bronx, puis New York, puis... Puis là, dans le film, finalement, tout le monde a l'air tabaga, des tatates, ils sont comme « Nous sommes à Alphabetville! » Puis là, t'es comme « OK, je pense que j'écoute pas la bonne affaire. » Fait que... Donc, la musique de fête lascive, omniprésente, ne nous donne pas de break dans le film, comme je ne vous en donne pas en ce moment. Si ça vous gosse, ça fait juste 5 minutes, imaginez un film d'1h38. Donc, c'est ça. Puis là, dans ce film-là, il y a le fils de Rita Lapunta. Lui, il y a une blonde.
Il est lourd, lui.
Ouais, ouais. Mais lui, c'est comme le gangster power. Là. C'est comme le fils de la méchante.
Ouais, mais c'est pas clair s'il joue... Tu sais, le beau gosse là, qui a un regard intense, ou oui, il est peut-être beau, mais c'est un espèce d'imbécile qui parle lentement. Des fois, il parle pas de déterminant, là. Boire, eau, plaît. Oh, c'est n'importe quoi, là. C'est pas clair, son personnage.
En tout cas, moi, je voulais juste vous dire qu'à côté de ce gars-là, il traîne toujours une fille, là. C'est sa blonde. Elle est vraiment blonde. Elle a les cheveux blonds. Je pense que c'est le numéro 38 de Clairol.
Puis, c'est clairement la petite blonde, la blanche de service. Parce que tout le monde est ethnique dans le film, sauf elle.
On va y en venir à ce fameux film international, mais... en tout cas, la blonde, elle est pas intéressante. Mais là, jusqu'à la fin, mais je vous le dis, elle meurt à la fin. Puis quand elle meurt, on est même pas déçus parce que comme tous les autres, on ne s'est pas vraiment attaché. Donc, je vous rappelle qu'on est à mi-parcours et qu'à chaque instant, j'ai hâte que ce film se termine.
Ah, ça oui.
Et là, il y a toujours Simon qui rate un peu le Shazam, puis des fois, on est obligé de se lever puis de reculer à VHS parce que oui, on regarde ce film sur une vraie VHS. Mais et oui. Quand on manque le cue, il faut reculer. Et bon, donc... Ah oui, là, il faut quand même se dire que bon, on écoute un film de drogue, hein, parce qu'on était en train de l'oublier avec la musique qu'on écoute, mais
ouais,
dans l'entrepôt de cocaïne,
finalement,
il y a beaucoup de jeunes méchants bums. Puis un jour, il y a un autre jeune méchant bum qui veut rentrer dans la gang, puis pour lui souhaiter la bienvenue, ben le petit gars, il reçoit des coups de pied d'en face. Hein? Puis là, c'est un beau grand moment dans le film où est-ce qu'un enfant se fait battre dans un entrepôt de cocaïne pour qu'on lui souhaite la bienvenue. Donc, ce qui est quand même intéressant de ce film-là, c'est que tous les acteurs de doublage, c'est vraiment des déchets. On va se le dire.
Ah, ça oui!
À chaque instant, c'est poche. À chaque instant, son off. Tout est mauvais. Le choix des acteurs ne fit pas avec les faces qui sont à l'écran, les intonations. Il n'y a rien. Tout est off. Tout est poche. Moi, je pense que Simon, ta mère aurait fait mieux.
Ah, sûrement. Mais ouais. Je pense que le pire, c'est vraiment le fils de la Punta, là. Le beau gars, il me tapait ses nerfs, là. Mais beaucoup à cause de la traduction, justement, là.
Ben c'est ça. Fait que, mais moi, tu sais, dans le fond, ça me permet d'apprécier le film un peu. bon, puis là, ben on se rappelle que, bon, comme c'est un film de drogue, les guerres de gang, ça arrête pas, mais c'est comme les guerres de gang un peu à la District 31. Tu sais, il se passe pas grand-chose. Ils sont toujours dans des entrepôts en train de parler de ce qui se passe, puis de ce qui va se passer, puis de ce qui s'est passé, mais on vit pas grand-chose, hein? Fait que c'est comme des guerres de bureau, mais de gangsters latinos. Puis, c'est ça. Donc, là, il parle d'affaires qu'on voit pas, mais c'est bien international parce qu'il parle en masse des Chinois, des Brésiliens, des Français, des Espagnols, des putes et des Portugais. Puis tout le monde est fâché. Tout le monde est fâché. Ils sont bien fâchés. Fait que là, les deals de drogue se passent. Ah oui. Ah, je peux pas croire que j'allais enchaîner ça sans préambule, là. Fais-moi un petit silence, là, Simon, s'il te plaît, qu'on respire. Bien sûr. OK, là.
Comme dans un resort.
Écoute, cette année.
Mais c'est, imaginez le film, 1h38 de ça.
Il y a juste okay. Moi qui danse encore. T'sais.
Bon, là, on est rendu à l'étape cruciale. Tu sais, parce que c'est un film de drogue, puis il n'y a jamais de drogue à l'écran. Puis là, c'est le moment dans le film du deal de drogue. Et là, ça se passe sur un trottoir, en plein jour, avec un line-up de minables, avec des petites faces de gangsters. Donc, ça a l'air d'un kiosque de limonade pour enfants. Donc, tu as comme... deux gangsters assis derrière une petite table contre un building. Puis là, il y a un petit panier d'osier qui descend, qui est tenu avec une ficelle. Puis là, les gangsters prennent la cocaïne dans les petits paniers d'osier qui remontent vers le ciel, puis ils donnent ça à des gens en line-up dans la rue qui font bien pitié. Donc ça, c'est comme la scène de drogue du film, là, où est-ce qu'on comprend comment le crime fonctionne.
La scène de commerce. De trafic de drogue.
Oui, c'est ça.
Il y a une scène de consommation, je pense.
Oui, on n'est pas rendu là. Non. Là, je fais juste dire que là, c'est...
C'est la scène de trafic de drogue.
Ah oui, là, c'est...
Parce que le reste
les
du temps...
Les gros deals, là.
C'est ça, parce que le reste du temps, c'est vrai que c'est... Oui, on va voir des poches de cocaïne dans des caisses un peu, là. Mais en général, c'est juste des gars qui parlent, qui font ou qui vont faire ou qui ont fait du trafic. Puis là, lui, il est méchant. Faut se débarrasser des Brésiliens puis des Latinos. Puis c'est juste ça.
Puis là, ça fait longtemps là, que c'est rien passé. On vient de voir des deals de drogue là, avec des petits paniers d'osier puis du monde en line-up. Puis là, qu'est-ce qui se passe après ça? Une fusillade. Et c'est sur la musique d'Africana que ça démarre. Alors là, il y a une grosse fusillade. Et là, c'est une grosse scène. Et là, la musique est forte dans le film à ce moment-là. Et là, c'est la première fusillade où tout le monde meurt. Mais tu les vois mourir, les gens, là.
Ça tombe comme des mouches.
Puis les effets sont quand même pas si mal faits que ça. Sauf que la musique, on dirait que t'écoutes un mauvais vidéo corporatif. Tu comprends pas ce qui se passe. Fait que là, c'est Africana, puis tout le monde meurt.
C'est, donc, en fait, c'est El Africano de Wilfrido Vargas.
Fait que c'est ça. Donc, c'est la fête. On crève à l'écran. Et encore une fois, à Alphabetville, on s'en fout parce qu'on s'est attaché à personne.
Yeah!
Alors, bon. Alors là, le film continue. On va diminuer en Africana avant que je pète ma coche. Et là, bon, je continue de dire qu'il n'y a pas beaucoup de drogués dans ce film-là. Personne consomme. D'ailleurs, Madame Rita La Punta, elle, dans sa shop, si tu consommes, t'es un pas fin et t'as pas le droit de travailler pour elle.
Oh, elle va te tuer si tu consommes.
Le grand classique de tout le monde travaille dans la drogue, mais personne n'en prend. En tout cas. Fait que c'est ça. Donc, la coke qui est toujours au cœur de cette saga, mais qu'on oublie tellement c'est plate et qu'on fait juste parler d'affaires qu'on voit pas. Fait que finalement, la seule mini-scène avec un vrai drogué qui se passe a fini par arriver.
C'est on finalement l'a... la pochette. Écoute, d'ailleurs, on se rend compte que ça. Le seul camé du film se retrouve sa pochette pour te le vendre.
Fait que là, on était bien excités. Il y a un gars pogné avec une seringue dans le bras, puis là, il crie, puis il délire.
Puis quand il trash, il se lève avec sa seringue qui pend. Là,
puis là la seringue est piquée dans son bras, puis il fait bien pitié, puis là, il délire. Puis là, ben, si tu fais un freeze frame de sa face, tu dis, ben, mon Dieu, c'est la pochette. Fait que là, toute l'action du film en 5 frames, c'est la pochette. Puis c'était le seul drogué du film. On n'en a jamais revu après ça. Donc, un autre gars qu'on connaît pas, qu'on s'est pas attaché, qu'on sait pas c'est qui. Fait que finalement, ben là, c'est ça, j'en ai un peu parlé tantôt, mais tous les acteurs sont un peu trop jeunes pour le casting. Il y a juste Rita là, qui est un peu déphasée, là, mais tu crois pas à ça. Là. C'est comme si on a 21 ans et on fait notre premier film de cégep, puis on a mis les vestons de nos pères pour faire semblant qu'on est bien méchants. Là. Fait que c'est ça, ça ressemble un peu à ça. Puis il y a comme une scène trash un moment donné où est-ce qu'il y a un adolescent prépubère qui a dû faire un mauvais coup, mais je sais pas lequel. Mais ça doit être une affaire en lien avec la cocaïne encore, maudite drogue. Le gars, il se fait botcher sur le chest, là, mais là, genre, au moins 10-15 bonnes botches même... de cigarettes.
C'est quand même violent, là.
Puis là, le petit gars, il crie, là, « Ah! Ah! » Mais on sait pas c'est qui. C'est ça. Puis on sait pas c'est qui, puis on le revoit pas. Puis une autre affaire dont on se calisse dans ce film-là.
Est-ce qu'il y a encore de la musique? Pendant qu'il se fait brûler.
Non, je pense que là, on est dans le beat Casio à ce moment-là. Il y a un moment aussi... Un autre moment pantin, un autre moment de catin. Un moment donné, il y a des putes, hein, je l'avais dit un peu plus haut, là, tu sais, il y a les Latinos, il y a les Espagnols, il y a les putes. Les putes sont considérées comme un type de...
Oui, mais en même temps, on n'est pas surpris, tu sais. On le sait qu'on était à Alphabet City.
Oui, c'est ça. Donc, puis tu sais, comme on est dans la cocaïne, il y a forcément de la prostitution.
Ben oui.
Donc là, il y a des putes sur un matelas sale, dans un champ. Puis,
c'est
soir, et là, il y a comme deux matelas sales avec deux putes puis deux gars. Puis là, ben, ils se tortillent. Et là, arrive un char d'une poursuite dont on ne sait pas trop ce qui se passe, mais ça doit encore concerner l'enfer de la drogue. Et là, l'auto roule sur les gens du matelas, mais réalité un pantin qui revole. Pauvre pantin.
Il l'a pas facile,
ce pantin.
Non.
Le char qui passe dessus, pauvre petit pète. En tout cas, un des meilleurs moments du film.
Ça peut pas être pire que le meringue, là.
Oh yeah!
Mais là, attends, on achève tranquillement, là. Et là, je vous rassure, aucune drogue à l'horizon, toujours. Pas de drogué. Et là, la fin du film approche. On commence à sentir le soulagement. Et un autre fusillade. Musique!
Aïe, aïe, aïe!
Et là, ben là, encore une fois, ici, tout le monde meurt. Et là, ça va pas du tout parce que là, on se dit, calisse, il va-tu rester du bon à la fin du scénario? Ils vont-tu nous laisser sur un plan de plantes vertes jusqu'à la fin? Et là, pas longtemps après cette grosse fusillade, au Pelay, une autre fusillade. Puis là, des gens qu'on connaît pas, puis les seules personnes qu'on connaît beaucoup, tout le monde meurt. Musique! Alors, ben finalement, Rita La Punta, la blonde de son gars qu'on... Je me rappelle déjà plus de son nom.
On va dire Jack.
Tout le monde meurt.
Tout le monde meurt sur du meringue.
Et là, finalement, c'est le meilleur bout du film. C'est le générique de la fin qui part. Puis c'est encore le stitoune du générique du début qui repart.
On va la remettre.
Fait que voilà. Et là, le film se termine. sur cette bonne musique qui a ouvert l'histoire. Et ben c'est un film pas vraiment de morale, à part que la drogue, c'est mal.
Tu comprends que le trafic de drogue, c'est mal, parce que sinon, tout le monde se tire de ça avec du meringue.
Ouais, c'est ça.
C'est ça que j'ai compris.
En tout cas, moi, je pourrais dire que sur 10, si j'ose donner un 3, là, je me sens bien généreuse. Puis je dirais là, que 2 de mes 3 étoiles que j'octroie sont pour le jeu Shazam auquel on a joué.
Ouais, c'est ça aussi. C'est ça qui était le fun. Spotter les bonnes tonnes de meringue, là.
Fait que
c'était
moi,
quelque chose.
Je conseille à personne de voir Cocaïne. Pour vrai, je considère qu'on a fait une bonne action parce qu'on l'a vu pour les gens.
Exactement.
Puis là, non seulement on dit la drogue, c'est mal, mais Cocaïne, c'est fucking mal. Tu regardes pas ça.
Exactement. On l'a fait pour que vous n'ayez pas à le faire à la maison.
Oui, mais étrangement, tu me l'as bien mardi, on dirait. Je suis curieux de voir une fusillade.
Moi, je vais voir Rita.
Rita la Punta.
Ben oui. Clairement.
C'est ça. Donc,
tu me prêteras ça.
Ouais. C'est pas moi, j'ai vraiment eu l'image vraiment comme de deux putes sur un matelas sale dans un champ.
Ben en fait là, y a le setup, c'est parce que tu sais, on est dans le Bronx, c'est comme le spot d'un ancien immeuble qui a été détruit. Fait que c'est comme tu sais, il reste de la roche, il y a un peu d'herbe qui commence à pousser, mais c'est majoritairement de la terre d'un ancien building là, tu sais. Puis ça a l'air d'une dompe. Puis il y a un matelas dégueulasse en plein milieu, mais la scène...
Deux matelas.
Mais là, la scène...
Deux gars.
C'est que là, t'as les membres d'un clan ennemi qui viennent pour parler avec ce clan-là. Ils sont quatre.
Mais ces
gens-là, deux premiers rangs.
Pas, ils te roulent dessus.
Voilà, mais c'est... Non, c'est pas ça. C'est que là, t'as les deux méchants qui rentrent en dedans. Les deux autres voient les putes, disent « Oh non! » Au lieu d'aller faire ce dont on est venu pour faire, ben on va rester dehors, puis on va aller voir les putes, puis c'est là qu'ils vont sur le matelas. Fait que même dans le setup, pour t'amener là, ça ne fait aucun sens. C'est juste dégueulasse. Puis les autres, ils étaient là, ils ont juste profité de la situation en rentrant dedans avec le char. C'est tellement beau comme scène.
Mais on fait vraiment des jokes avec la musique depuis le début, mais pour vrai, c'est complètement absurde. Genre, c'est non-stop. Un film hyper violent, mais comme vraiment pas super intéressant, mais quand même super violent, puis la musique est complètement inappropriée. Ça fait que t'embarques pas dans l'histoire, tu sais, c'est un film de party. Puis d'ailleurs, je voulais dire aux gens que, tu sais, des fois, tu cherches un film pour brosser dans un party, mais si tu prends un shooter toutes les fois que quelqu'un meurt, t'es sous-mort à la fin ce film-là.
Oh, oui, quand même.
À quantité de fusillades, là...
Que ça arrive souvent quand il y a des films, traduits, on va dire en français. Le premier qui me vient toujours à l'esprit, c'est quand on parle de Pieces, OK? Française et version anglaise, les soundtracks sont complètement différentes. Mais vraiment différentes. Vrai. Moi, je me demande, ce film-là, traduction française, c'est-tu cette soundtrack-là?
Fait que là, on veut savoir si Mixed Blood.
Ouais,
Mixed Blood.
C'est indifférent. T'imagines-tu, c'est carrément de la musique d'action qui joue pendant ce temps-là?
Ça se peut.
Je serais curieux de voir.
C'est vrai qu'il faudrait faire l'exercice. Ben, peut-être que vous pourriez le voir en version originale puis dire si c'était mieux.
Je t'en donnerai des nouvelles.
Je vous le souhaite pas.
Non, mais ça va être mon devoir.
Mais au moins, on aura. Au moins, on aura appris quelque chose.
La violence est une réalité de la vie. C'est une chose à laquelle chacun doit faire face.
Et voilà. Sur ce, ben, on va se laisser tranquillement en musique. J'ai choisi une toune qu'il y a eu dans le film. C'est une de celles qui nous reste à diffuser. C'est qu'à un moment donné, la Punta, il y a comme une espèce de party. Puis, et voilà. Il y a une espèce de party, puis là, tout le monde demande « La Punta, allez, chante pour nous! »
Rita, La Punta!
Ah ouais, puis là, évidemment, tout le monde est content. Elle se fait pas prier, puis c'est ça qu'elle chante, elle se lance, puis elle va nous interpréter Tico Tico, une espèce de classique, mais qu'on s'ennuyait pas, dont on n'avait pas vraiment envie de réentendre. Mais on l'écoute, La Punta, qui nous chante Tico Tico, c'est insupportable. Sur ce... Ben à tous, je vous souhaite une bonne semaine.
Bonne semaine.
On se reparle dans 2 semaines pour un prochain épisode des Oubliettes. Merci Laurence, merci Olivier, merci Eric.
Merci
à très
Simon.
Bientôt.
Musique. Linha nossa palma, ele acha que o fubá é que é boa alimentação. E o tico-tico tá, outra vez é que o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá, outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. Mas por favor, vira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tipo de criticar, se matou meu papá. Que tanta coisa que ele pode punir, eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei um bicho para ver se ele punia. Botei um gato, um espantalhinho, um capão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. E o tico-tico-tá, tá outra vez aqui. O tico-tico-tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas vinhas para não tomar. O tico-tico-tico-tá, tá outra vez aqui. O tico-tico-tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas vinhas para não tomar. Por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de cá de cima do meu fubá, que é tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, botei alfice para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalinho, um capão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico, tico, tá, tá outra vez aqui. O tico, tico, tá comendo meu fubá. Se o tico, tico, tenta que se alimenta, que pra comer umas minhas pra não fumar. O tico, 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 tenta outra vez aqui. O tico, tico, tá comendo meu fubá. Se o tico, tico, tenta que se alimenta, que vai comer umas minhas.